7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et l'émission est dédiée à tous ceux qui vivent un enfer sur Terre pour la seule raison de leur orientation sexuelle, où qu'ils soient dans le monde. En quelques années, la lutte pour les droits des personnes homosexuelles est devenue un véritable combat pour les droits humains et qui n'est plus l'apanage des associations militantes. Protéger ces hommes et ces femmes au même titre qu'un militant politique, finalement, n'est pourtant pas encore perçu comme une évidence. Alors comment les organisations internationales l'intègrent à leur programme? Quelles sont leurs difficultés aussi contre les préjugés? Nous allons en parler avec vous, Bénédicte Jeannereau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice France de Human Rights Watch. Également dans le studio, Sacha Koulaeva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale à la FIDH. La FIDH, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme. Et on attend également de Bruxelles, qui arrive par le train, David Paternotte, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université libre de Bruxelles. L'augmentation des violences contre les homosexuels dans certains pays, je pense en particulier à la Tchétchénie, on va bien sûr en parler. Cette augmentation des violences est-elle une réaction face à un mouvement à long terme de plus grande tolérance, de plus grande ouverture dans l'ensemble des sociétés? Évidemment, la question est ouverte. Et bien sûr, les voisins, vous avez la parole si vos propos sont pacifiques. Droits des personnes homosexuelles et droits humains, un combat collectif. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Et je vous le rappelle, 73 pays dans le monde considèrent toujours l'homosexualité comme un crime. Je vous lis quelques messages de nos auditeurs. Victor, qui est à Mundu et nous dit sur le continent africain, il y a un vrai combat à mener contre les ONG qui luttent, menées par les ONG qui luttent contre l'homophobie. Certains pays d'Afrique ont tenté de reconnaître l'homosexualité, mais ils se sont toujours heurtés à des difficultés d'ordre culturel, moral et voire même juridique. Yannick aussi nous écrit de Kisangani en République démocratique du Congo. Malheureusement, nous dit Yannick, certaines sociétés barrent la route à l'homosexualité. Le problème persiste. Dans mon pays, l'homosexualité est jugée comme une pratique inhumaine. Ou encore Charles à Yaoundé au Cameroun. Où va le monde pour valoriser les légaliser tout? A-t-on déjà vu un coq avec un coq, un lion avec un lion? Mais justement, le problème, c'est que nous ne sommes pas des animaux, Charles. Et Sam à Dakar poste aussi le message suivant: vous pouvez fermer les ondes en Afrique de l'Ouest le temps que votre émission s'achève. Eh bien, merci pour vos encouragements, Sam. Nous ne démissionnons pas et on continue le job et vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez au 33 1 84 22 71 71. Alors, on peut se poser la question, à quoi sert le débat?
À faire avancer les choses, comme toujours. C'est bien en discutant, en essayant de convaincre des personnes qui ont encore des réticences face à l'universalité des droits, qu'on parvient à faire avancer les choses. Et je crois que c'est un élément essentiel de notre travail à Human Rights Watch et dans d'autres grandes organisations de défense des droits humains, de non seulement rendre visibles des comportements ou des lois qui sont inacceptables à l'égard des personnes gays, lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, etc., mais aussi d'engager la discussion, la conversation pour essayer de convaincre un public le plus large possible pour faire évoluer les droits et faire que ces droits qui sont dits universels le soient vraiment sans aucune discrimination de sexe ou d'orientation
sexuelle. Sacha Koulaeva, pourquoi continuer à débattre quand vous entendez ce genre de messages?
Tout simplement parce que je pense que les droits de l'homme, les droits humains d'ailleurs, c'est pas les droits de l'homme, sont universels bien sûr, mais aussi parce que c'est pas l'imposition d'une opinion ou d'un point de vue, c'est justement les droits qui sont garantis pour tous. Il s'agit tout d'abord de la protection des gens. Il s'agit de leur garantir un certain nombre de protections, quoi qu'elles soient, leur couleur, leurs origines, leur orientation, etc., pour prévenir les horreurs. C'était quand même ça, derrière la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était ça, derrière la création de l'ONU à l'époque. L'humanité a traversé un certain nombre d'horreurs insupportables pour arriver à la conclusion que pour prévenir ça, il faut avoir des règles à ne pas dépasser. Et le débat, bien sûr, fait partie de notre travail, mais encore une fois, pas, il ne s'agit pas d'imposer notre point de vue, mais de protéger les gens.
Alors tout de suite, reportage en Ouganda, un pays où être homosexuel est toujours difficile, voire dangereux. L'homosexualité est interdite par le code pénal, passible de peine de prison. Le pays s'est fait remarquer en 2014 avec une loi qui prévoyait la prison à vie pour les membres de la communauté LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, bi, transgenres, mais aussi prévoyait la prison pour ceux qui ne les dénonçaient pas. Une sorte de chasse aux sorcières a été lancée, les journaux publiaient des listes de noms de personnes homosexuelles. La loi a été retirée quelques mois après sa promulgation sous la pression de la communauté internationale et des organisations internationales et locales. Et parmi les militants les plus actifs dans le pays qui ont contribué, il y a le travailleur social Pepe Julian Onziema. Il est directeur de programme de l'organisation Sexual Minorities Uganda. On l'écoute.
Pour moi, avoir un dialogue, même si la majeure partie n'aboutit pas, j'ai le sentiment que c'est déjà une réussite parce qu'il y a des pays où vous ne pouvez absolument pas parler de l'homosexualité. Mais aussi du côté politique, nous ne voyons plus beaucoup de politiciens soulevant des questions anti-gays. Nous n'entendons pas non plus, pas autant qu'avant, de discours haineux. Nous avons aussi la Gay Pride. Tout le monde croit que le Kenya est plus sûr, mais ils n'ont jamais eu leur Gay Pride. L'Ouganda est toujours très homophobe. Vous vous souvenez de la loi anti-homosexualité? Même si elle n'existe plus, ses effets se font toujours ressentir. On voit encore des gens rapporter à la police les homosexuels qu'ils connaissent. En février 2014, le président a signé la loi anti-homosexualité. 2014 a été une année de terreur et nous avons immédiatement, avec d'autres organisations de la société civile, fait appel de cette loi devant la Cour. Depuis 2014, personne n'a proposé de nouvelles lois. Nous avons réussi cela. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de tentatives. Il y en a. Mais grâce au partenariat et aux contacts que nous avons créés au sein du gouvernement, nous avons été en mesure de diluer leurs efforts. C'est aussi le cas au sein du ministère de la Santé. Nous réussissons à nous asseoir à la même table avec des fonctionnaires du gouvernement et à travailler ensemble sur les propositions du Fonds mondial de lutte contre le VIH.
Il y a de plus en plus d'ONG, d'organisations qui parlent plus ouvertement de la communauté LGBT en Ouganda. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est quelque chose de bien. Du moins, nous avons pris le contrôle de notre activisme et au cours des années, nous avons développé des lignes directrices pour les communautés locales, pour la région et pour l'international. Donc pour les gens comme Amnesty et d'autres, nous avons des recommandations. Et je suis content qu'ils les respectent même si leur travail est de s'assurer que les problèmes soient rendus publics. Mais ils sont toujours respectueux. Notre sécurité vient en premier. C'est ainsi que nous travaillons et bien sûr, nous ne voulons pas qu'ils s'arrêtent.
On vous voit vous battre dans de nombreuses causes de société. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Je crois que c'est Martin Luther King qui disait qu'il ne pouvait être libre tant que tous ne l'étaient pas. Je crois fermement en cela. Donc, je me suis impliqué dans la lutte pour les droits des enfants, les droits des personnes affectées par le VIH, les droits des personnes handicapées, les femmes. Tout être humain qui est stigmatisé, je dois être présent pour lui. C'est une question de partage de solidarité, parce que je fais partie de cette communauté. C'est clairement une position politique. Malgré la violence, malgré les menaces, je suis là.
Vous dites que les menaces contre les homosexuels existent toujours en Ouganda. Avez-vous des exemples qui vous concernent ?
My threats are countless. I recently got a car.
Je ne peux pas compter les menaces qui pèsent contre moi. Récemment, j'ai acheté une voiture, mais par deux fois, on a tenté de me faire avoir un accident. J'ai été physiquement agressé. On m'a attaqué sur un taxi-moto. Lors de la Gay Pride, j'ai été tellement battu en prison que j'ai encore des problèmes d'audition. J'ai dû me faire opérer, mais je n'ai pas retrouvé 100% de mon audition.
Quels sont vos espoirs pour l'Ouganda ?
J'espère que la législation sera acceptée par les Ougandais parce que je ne voudrais pas avoir une situation comme en Afrique du Sud où il y a une loi mais où les mentalités ne suivent pas. Et pour nous, c'est aussi une partie de notre stratégie en Ouganda. En même temps que nous faisons pression pour avoir une loi, nous sensibilisons les gens. Ainsi, au moment venu d'une loi qui autorisera les personnes LGBT à avoir le droit à la famille, le droit à l'éducation, il y aura une approbation collective de la communauté ougandaise.
Voilà, ce travailleur social, Pepe Julian Onziema, était interviewé par Charlotte Cossé, qui est notre correspondante pour RFI en Ouganda. Bénédicte Jeannerot, que pensez-vous de ce témoignage ?
Je crois qu'il est, il est très fort et il est extrêmement riche aussi, puisqu'il est très fort, évidemment, puisque le témoin raconte sa propre expérience de violence et de discrimination absolument atroce, inacceptable, du fait de son orientation sexuelle. Mais il montre aussi comment la société civile et sa propre association travaille au niveau local, également en réseau avec des organisations internationales. Et je trouve que ce qui est très intéressant aussi, c'est de dire cette double responsabilité. Il y a une responsabilité majeure de la part des États à prendre des lois ou alors à mettre fin à un certain nombre de lois, notamment sur la question de la pénalisation des relations homosexuelles, qui doivent ensuite être relayés par la société civile. Et c'est un peu un double travail à faire au niveau des pays. Une fois qu'une loi a été prise, il y a ensuite tout un effort de la part de la société civile pour la mettre en œuvre et pour faire évoluer les mentalités et faire évoluer, provoquer une
évolution sociale. C'est notamment le travail de votre organisation Human Rights Watch en Ouganda, par exemple.
Oui, tout à fait. Oui, on travaille en lien avec ces organisations-là. Ce que dit le témoin est très intéressant aussi, de voir comment on articule notre travail de manière à bien les aider, à ne pas les exposer ou à les mettre en danger. Ça a été le cas aussi au Nigeria récemment. Donc on travaille en très étroite collaboration. De temps en temps, des associations locales ont besoin de l'écho que Human Rights Watch va pouvoir donner à leur combat, ou au contraire, vont avoir besoin d'une collaboration beaucoup plus souterraine pour éviter qu'une prise de parole de Human Rights Watch sur le sujet les expose encore plus ou les mette en danger.
Alors, la mobilisation des organisations internationales comme les vôtres peut avoir un effet sur la violence des États, comme en Ouganda, donc, où l'État a reculé. Où est-ce qu'on en est en Tchétchénie, Sacha Koulaeva, où les persécutions vis-à-vis des personnes homosexuelles semblent connaître un regain de violence inouï?
Oui, tout à fait. La situation en Tchétchénie maintenant est beaucoup sur les pages des journaux. Néanmoins, elle n'est pas très nouvelle. Et moi, ce qui m'a marqué dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est son côté universel. On aurait pu imaginer que cette personne parle de plein de coins de la planète, malheureusement. Moi-même, je viens d'un pays où jusqu'à mes 20 ans, l'homosexualité était dans le code pénal et pénalisée. Ce qui est intéressant aussi, c'est...
Vous êtes russe ?
Je suis russe d'origine, oui, tout à fait. Et après une vingtaine d'années de pause dans les répressions, au moins au niveau législatif. Malheureusement, une nouvelle loi homophobe a été propagée par le gouvernement de Poutine et en place. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est plus les rapports entre les homosexuels qui sont pénalisés, c'est
L'homosexualité n'est pas interdite en Russie, hein, alors que c'était le cas à l'époque soviétique.
Exactement.
Hein,
ce qui est interdit maintenant, c'est de faire, je cite bien sûr, c'est pas mes paroles, la propagande parmi les mineurs de homosexualité. Ouais. Ce qui est complètement hypocrite comme formule, parce que même si on sort avec un drapeau arc-en-ciel ou on s'affiche ouvertement comme un couple avec la personne du même sexe, on peut être accusé par la législation russe, et on est accusé, on le témoigne tous les jours, de propagande de homosexualité parmi les mineurs. Donc en gros...
Ça véhicule aussi l'idée que l'orientation sexuelle serait donc une opinion ou un choix. Hein,
exactement, aussi. Et plus que ça, qu'affirmer ses droits est pénalisable. Pas être ce qu'on est, mais réclamer les droits de la personne, de l'humain. Et en Tchétchénie, donc effectivement, la situation sort un tout petit peu même de ce commun qui est déjà assez dramatique, homophobe, violent, parce que toutes les personnes qui se manifestent, qui parlent ouvertement de leur orientation ou en soutien des autres, parce que ce qui est intéressant aussi de cette nouvelle loi, c'est que l'hétérosexuel peut être poursuivi aussi, pour affirmer que les homosexuels ont les mêmes droits que nous. La Tchétchénie sort une fois de plus de commun par le niveau de violence, mais pas sur le fond, je dirais. On n'en a plus entendu tellement
torture,
parler.
Torture, meurtre, disparition.
Exactement. Ça fait un petit moment qu'en France, on n'a plus entendu parler de la Tchétchénie, mais sur le fond, rien n'a changé. C'est le même régime extrêmement totalitaire, extrêmement violent, où les détentions arbitraires, la torture et extraction d'argent, c'est la normalité qui concerne des couches diverses de population, des dissidents, des opposants, des femmes.
Mais pourquoi une flambée de la répression à l'égard des personnes homosexuelles en Tchétchénie maintenant ? C'est la question qu'on peut se poser.
Tout à fait. Bon, après, on peut entrer dans les détails, mais je pense que ce qui l'a provoqué véritablement, c'est que le chef d'État s'est rendu compte de l'étendue de ce phénomène. Et arrestation de quelques personnes dont les portables ont été saisis ont révélé l'existence des réseaux. Malheureusement, encore une fois, on revient à la question de sécurité des données personnelles qui ont permis une véritable rafle quand les personnes ont été arrêtées massivement, mises dans ce qu'on appelle les lieux de détention arbitraire.
C'est ça. Donc en fait, cette répression, elle se déclenche quand il y a une tentative d'existence sociale de ces personnes, d'une certaine manière,
oui,
notamment sur les réseaux sociaux.
Oui, mais parfaitement caché et secret. Il n'y avait aucune affirmation publique, c'est quand même, il faut le souligner, enfin même s'il y en avait, il n'y aura rien de mal, mais je veux dire que là, c'était juste, encore une fois, la question d'argent est quand même assez importante, parce que les personnes qui étaient torturées dans ces lieux de détention arbitraire, c'est pas comme certains journalistes ont pu faire entendre que ce sont des camps de concentration pour les homos, non, c'est les lieux de détention arbitraire très propres à la Tchétchénie, avec les usines désinfectées, les écoles, etc. On met les personnes qu'on ne peut pas arrêter officiellement, qui sont torturées pour donner d'autres noms et pour donner de l'argent, pour que leur identité ne soit pas révélée, parce qu'en Tchétchénie, leurs familles sont souvent aussi contre eux. Ils peuvent être aussi violents à leur égard que l'État elle-même. Donc c'est pour ça que ces personnes sont triplement en danger. Et l'action de la FIDH consiste à la fois, évidemment, d'alerter et de dénoncer, d'organiser le plaidoyer auprès des instances intergouvernementales sans l'aide desquelles on ne peut pas avancer avec un pays tel que la Russie, et d'apporter la protection immédiate.
Ce qui fait notamment qu'Angela Merkel a soulevé la question auprès de Vladimir Poutine.
Tout à fait, mais tout cela n'empêche pas qu'il y a des personnes qui sont en danger, là, maintenant, immédiatement en Tchétchénie, et qu'on est aussi obligé de penser à leur sécurité, à leur protection, et les aider sur place et à l'extérieur du pays.
Est-ce que globalement, vous évoquiez votre pays d'origine, Sacha Koulaeva, la Russie, est-ce que globalement, il y a une recrudescence de l'homophobie en Europe de l'Est ?
Je pense qu'il y a un croisement de plusieurs phénomènes à la fois. D'un côté, il y a les sociétés qui se remettent en cause après 20 ans de développement tout différent qui était le leur pendant presque un siècle sous le plan soviétique. Il y a également la montée de populisme, de traditionnalisme, entre guillemets,
notamment pour la Hongrie.
Notamment en Hongrie, en Pologne, en France, sans pointer de doigt qui que soit, et d'autres pays. Et la Russie ne fait pas exception. Et en plus, il y a effectivement cette affirmation un tout petit peu plus publique des milieux de LGBT. Mais là, j'aimerais, et pour moi c'est vraiment important, rappeler l'exemple par exemple de Rosa Parks à l'époque de son fameux geste dans le bus quand elle a refusé de lui céder la place
militante noire américaine.
Beaucoup de personnes disaient mais ça ne fait que augmenter les souffrances de population noire parce que ça souligne leur humiliation, etc. Alors qu'on sait tous que ce geste a permis de tourner cette page, en tout cas d'une certaine façon, et avancer.
Alors justement, je me tourne vers vous, David Paternotte, vous venez de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a une augmentation des violences à l'égard des personnes homosexuelles parce que ces communautés-là sont plus médiatisées, que les associations LGBT sont plus actives et tentent d'obtenir le droit d'une parole publique comme toutes les autres personnes dans une société ?
Mais ça joue sans doute. Alors c'est difficile de savoir numériquement, certainement, si on parle à l'échelle de la planète, ce qu'il en est. Par contre, on peut se poser la question de est-ce qu'il y aurait une radicalisation de minorités, entre guillemets, homophobes, ou en tout cas radicales, qui de plus en plus se sentent menacées, et parce qu'elles se sentent menacées, réagissent de manière plus violente. On peut se poser la question, dans le cas de la France, la manif pour tous, c'est clair quand on voit les sondages d'opinion en France, que ce n'est pas la majorité des Français. Par contre, c'est peut-être pour ça aussi que ces gens sont prêts à les manifester contre un droit qui ne les touchait pas eux-mêmes, ne leur faisait rien perdre, mais était suffisamment important pour maintenir un mouvement. Ce qu'on voit aussi par ailleurs, et c'est ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a une utilisation par un certain nombre de leaders politiques de ces questions-là, qui sont aujourd'hui dans l'agenda public, pour diviser. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec le président russe, c'est une utilisation des questions LGBT, pas nécessairement parce qu'il est lui-même particulièrement concerné, mais parce que c'est une manière de faire la différence avec l'Europe, avec l'Occident, et de construire un projet politique alternatif.
Alors bien sûr, on va en reparler aussi de la question de l'Occident qui serait le pourvoyeur des valeurs homosexuelles, si on en croit les messages postés par nos auditeurs, on va y revenir. L'ONU aussi a eu un débat l'année dernière pour savoir si l'orientation sexuelle relève des droits droits de l'homme avec la nomination controversée d'un rapporteur spécial pour le droit des personnes gays, lesbiennes et transgenres. Nous allons y revenir. Vous restez avec nous, Bénédicte Jeannereau, Sachra Koulaev et David Paternotte. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, juste après le flash chez 7 milliards de voisins.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Nous parlons des droits des personnes homosexuelles et des droits humains, un combat collectif. Et c'est pour ça qu'on a invité des organisations internationales de défense des droits humains. Bénédicte Jeannereau, vous êtes directrice France de Human Rights Watch. Sacha Koulaeva, vous êtes responsable du Bureau Europe de l'Est et Asie centrale à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Et David Paternotte, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Je vous lis le message de Bertrand. On a évoqué ce problème-là juste avant le flash. Voici le message qu'il poste de Yaoundé. En Afrique, l'homosexualité est souvent imposée par les Européens. Comprenez que nos cultures sont différentes. En Europe, vous refusez la polygamie, on ne se fâche pas. Nous refusons l'homosexualité, comprenez-le. C'est ça l'égalité entre les peuples. Donc, ça serait finalement la tolérance renversée. Qu'est-ce que vous répondez, David Paternotte?
Ben, on peut retourner l'argument facilement. Certainement, si on prend l'Afrique anglophone et l'ensemble des anciennes colonies britanniques, les lois homophobes, les lois qui pénalisent l'homosexualité sont des lois coloniales. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, l'homophobie est venue avec la colonisation et a été imposée dans un certain nombre de pays africains où un certain nombre de pratiques avant l'arrivée du colonisateur ne posaient pas problème. Et on le voit énormément dans les récits aussi de voyageurs dans différentes parties du monde, notamment en Afrique, les récits de colonisateurs où il y a des préoccupations et une volonté d'arrêter un certain nombre de pratiques sexuelles.
Notamment avec l'arrivée des religions chrétiennes, bien sûr.
Et ça, c'est un autre élément, c'est que les propagandes homophobes sont en général aussi propagées par des groupes, surtout des États-Unis, des groupes protestants qui viennent et qui mettent énormément d'argent en Afrique pour promouvoir ces propagandes homophobes.
Le mal venu de l'Occident, c'est effectivement le principal argument de ceux qui refusent des droits fondamentaux pour les personnes homosexuelles. C'est de dire qu'il s'agit de valeurs occidentales, Sacha Koulaeva.
Oui, l'argument n'est pas encore une fois quelque chose d'extrêmement nouveau. En Tchétchénie, par exemple, je pense à notre collègue défenseur de droits humains, Natalia Estimerova, assassinée malheureusement en 2009, très brutalement à cause de ses activités, qui a été rapprochée par Kadyrov, le président du pays, de ne pas mettre le voile. À l'époque, la question pouvait encore se poser. Maintenant, elle ne se pose plus. En Tchétchénie, c'est obligatoire le port de voile. Et donc il lui a rapproché devant les caméras en disant que c'est la tradition tchétchène, comment vous pouvez vous y opposer? Elle a dit, bah oui, il y avait aussi tradition de vivre dans les cavernes, on n'est pas obligé de suivre toutes les traditions. Et je trouvais que la réponse est très simple et en même temps très claire et très actuelle encore maintenant. Oui, il y a des traditions, la bonne nouvelle c'est que l'humanité progresse et on dépasse certaines choses. Quand j'ai appris en arrivant en France quand est-ce que les femmes ont acquis leur droit de vote dans ce pays des droits de l'homme et de démocratie, ça m'a beaucoup surpris. Venant d'un pays totalitaire qui était l'Union soviétique où on votait les femmes depuis un siècle. On progresse, les femmes acquis des droits, les LGBTI aussi, les homosexuels aussi. C'est un progrès compliqué, compliqué à accepter par beaucoup des populations, mais je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie, si je peux me permettre un peu d'optimisme.
Justement, est-ce que vos organisations respectives, la FIDH et Human Rights Watch, est-ce qu'on vous reproche, dans certains pays, votre engagement pour la défense de tous les droits humains, y compris de la défense des droits des homosexuels?
On trouve toujours de la résistance sur la défense des droits de certaines minorités.
On est bien content de vous trouver, par exemple, pour défendre des prisonniers d'opinion politique.
Bien sûr, mais d'ailleurs, je crois que globalement, l'action de nos organisations est bien acceptée. Mais là, je souligne vraiment que ça n'est pas l'apanage. Des oppositions ne se trouvent pas que sur le continent africain. On peut avoir aussi une très grande hostilité. D'une manière. Là, on voit en ce moment, avec la montée des populistes, à quel point les droits humains suscitent de l'hostilité de la part de dirigeants politiques qui s'expriment ouvertement contre les droits humains, que ce soit Trump, Marine Le Pen ou ailleurs, ou le président Poutine. L'hostilité qui peut être exprimée, elle existe. Je crois que vis-à-vis des droits humains en général, on peut dire que le populisme leur donne un regain dans leur virulence. Donc voilà, donc le travail n'est pas toujours facile, mais je dirais que globalement, nous et les différents réseaux des sociétés civiles arrivons à petit à petit à faire avancer.
Et vous ne vous êtes pas toujours saisi de ces dossiers-là, d'ailleurs, respectivement, vos organisations internationales. C'est relativement récent, ça date de quand? Ça a été sous la pression aussi? Vous avez été sensibilisé par les organisations militantes LGBT pour que vous, des organisations généralistes de droits humains, fassiez partie du combat?
Bon, la FIDH, c'est une histoire un tout petit peu différente parce que c'est une fédération internationale des ligues, donc de droits humains dans le monde entier. Donc, forcément, on est obligé d'être la porte-voix de nos organisations membres. Il y en avait des organisations qui, depuis des années, travaillaient sur ces questions-là. Il y en a d'autres pour qui la question était effectivement plus nouvelle, parfois plus douloureuse, plus compliquée, selon l'entourage dans lequel ils sont obligés de travailler, qui sont aussi à prendre en compte parce qu'ils sont aussi dans les zones à risque souvent. Pour nous, autant que structure, ça faisait toujours partie des droits comme tous les autres droits, c'est-à-dire de vivre ce que nous sommes, sans torture, sans persécution, sans répression. Et pour moi, c'est très important, le parallèle qu'on fait justement dans la campagne que la FIDH a lancée aujourd'hui, à l'occasion de cette journée contre l'homophobie.
Vous axez beaucoup sur la Tchétchénie, bien sûr.
Sur la Tchétchénie et le Donbass. Et sur l'Ukraine, l'est de l'Ukraine, Donbass, la région en proie de violences, par ailleurs, de toutes sortes. Pour moi, la situation est semblable dans ces deux régions parce que c'est les régions de l'arbitraire, où il y a les lieux de détention illégale, où il y a l'extraction de l'argent facile, où il y a la violence et la torture. Donc forcément, les populations les plus vulnérables deviennent les premières victimes de ces pratiques. On le voit en Tchétchénie, mais on le voit aussi à Donbass. Dans les deux cas, les régimes nient l'existence même des homosexuels dans la région parce que c'est beaucoup plus simple de commettre les crimes dans le noir qu'en plein jour, ça c'est clair. Et dans les deux cas, les populations ne viennent pas au secours de ces populations encore moins qu'aux autres parce qu'il y a homophobie ambiante. Donc il faut mettre ces trois éléments pour moi ensemble dans le panier. Il y a l'homophobie qui n'est pas encore dépassée, il y a l'arbitraire et on le voit, ce phénomène commence à monter en flèche.
Est-ce que justement, David Paternotte, globalement, une société qui est violente à l'égard des droits des personnes homosexuelles est une société qui est violente à l'égard de tous les habitants ?
En général, maintenant, on peut voir par exemple ce qu'on a vu en France avec la Manif pour tous, où là, il y a eu, à l'époque, des débats sur le mariage, un regain de violence homophobe dans l'ensemble de la France. Mais là, on ne pouvait pas dire que la société française, en son ensemble, était violente.
Non, bien sûr que non.
Mais en général, oui, ça n'aide pas.
Ce n'est pas le même type de violence non plus.
Et ce qui vient d'être décrit, ça aide. Ce qui aide surtout, c'est quand on a, un peu partout dans le monde, ce n'est pas qu'en Russie, des leaders politiques qui veulent utiliser les droits LGBT pour d'autres fins politiques, c'est qu'effectivement, il n'y a personne pour défendre dans beaucoup de pays les personnes LGBT. Donc c'est une minorité qui ne va pas s'opposer, qui n'est pas défendue et qui donc, c'est un combat qui est très facile à mener, comparé par exemple à d'opposition d'autres minorités.
Ouais, vous citiez la France et c'est vrai qu'après un tassement ces deux dernières années des violences, enfin des paroles, des actes homophobes, on a de nouveau une augmentation de 19% en 2016, selon le recensement de l'association SOS Homophobie. Comment expliquer qu'il y ait tout d'un coup des rebonds comme ça, avec une augmentation très significative de l'homophobie, finalement, qui perdure dans la société française, même si elle est réprimée par la loi?
Les choses ne sont pas réglées d'abord, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a la loi sur le mariage que l'homophobie disparaît. Et l'impact d'une loi comme celle sur le mariage, sur l'homophobie, n'est pas évident. Un certain nombre de collègues ont tendance à montrer qu'en général, ça aide à lutter contre l'homophobie, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Autre chose, c'est que, comme je le disais avant, les gens qui sont contre ce genre de droits sont peut-être radicalisés et continuent à rester actifs. Autre chose aussi, c'est qu'il y a probablement plus de dénonciations, c'est-à-dire que des personnes victimes de violences, aujourd'hui, en France, et ça c'est probablement très différent d'autres parties du monde, osent dire les violences et savent qu'elles sont protégées, qu'il y a des organismes, qu'il y a des lois, et qu'on peut demander réparation en cas de violence.
Bénédicte Jeannereau.
Je crois que aussi SOS Homophobie, dans son rapport, souligne que des temps politiques forts favorisent également ce genre de propos ou d'actes homophobes. Et quand on a des actions, que ça soit lié à une loi, comme par exemple SOS Homophobie souligne que la loi sur les trans qui a été votée à l'Assemblée en octobre, que ça provoque à chaque fois des réactions d'une minorité que SOS Homophobie appelle une minorité extrêmement bruyante, qui s'exprime fortement sur les réseaux sociaux, et que ces temps politiques autour d'une loi ou autour d'une campagne présidentielle peuvent cristalliser la haine LGBT et la faire s'exprimer. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi autour des réseaux sociaux qui est soulevé par SOF Homophobie dans son rapport sur la prévalence de l'insulte ou des propos homophobes sur les réseaux sociaux.
Alors justement, on va en parler. C'est une autre forme de violence qui s'exerce sur les personnes homosexuelles. Que se passe-t-il exactement à l'heure actuelle sur Internet, sur les réseaux sociaux, des deux côtés que l'on se place? Love don't have to hurt. Forget, forget who you once were. No, you're wrong to beat the song. With your head against the wall, you're just too proud to make the call. Please respond, you've lost it all. I think the Lord, we're making ripples in the sky. Can't you sit around and cry? We were one in an open world. Can't remember how it was before. One in an open world.
In my old red cameo, and if I find you in the dust, I'll clean you up and call the bus. We'll be home when we want to.
Chez 7 milliards de voisins, Burning Bridges, nous parlons des droits des personnes homosexuelles aujourd'hui, en cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Il y a encore de nombreux débats à mener, évidemment, pour faire bouger les lignes. Alors, on parlait de tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur Internet. C'est vrai qu'Internet exacerbe les tensions, mais elle mérite aussi d'étaler les débats qui sont nécessaires. David Paternotte. Oui, c'est la question que je vous posais en fait. Ce qui se passe à l'heure actuelle sur Internet avec notamment la professionnalisation des militants anti-gays aussi.
Mais ce qu'on voit sur Internet, d'une part, c'est que ça permet, c'est un média facile, on peut facilement déverser un certain nombre de réactions de haine sans avoir personne en face de soi. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça permet de créer des réseaux, des liens entre des acteurs qui avant pouvaient plus difficilement entrer en contact. Et ce qu'on constate dans les mouvements anti-droits LGBT, qui sont souvent aussi des mouvements anti-droits des femmes, ça va souvent de pair, c'est qu'on a à la fois une professionnalisation, notamment par une utilisation très intensive des nouveaux médias sociaux. Ils sont extrêmement actifs dans des campagnes de bombardement d'emails, dans la mise en place de sites web, etc. D'autre part, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils internationalisent, c'est-à-dire que des groupes qui existaient avant dans des pays très différents, des groupes qui ne se parlaient pas, notamment pour des questions religieuses, par exemple les catholiques, les évangélistes, les orthodoxes, aujourd'hui travaillent ensemble de plus en plus, sont en train de constituer des réseaux qui deviennent très solides et qui deviennent globaux.
Mais finalement, ils utilisent les mêmes stratégies qui ont été développées sans les réseaux sociaux, puis avec les réseaux sociaux par les différents réseaux activistes, la pro-LGBT, et qui ont fait avancer leur cause aussi en s'organisant en réseau, en mouvement, en mobilisation nationale et internationale, et pour lesquels les réseaux sociaux ont joué pour le coup un rôle très positif. Mmh. Mais on voit à quel point les réseaux sociaux peuvent être utilisés à des fins... renversée de haine et d'intolérance.
Et comment vous travaillez, vous, les uns et les autres, avec vos organisations internationales, Sacha Koulaeva?
On est obligé de faire face, effectivement, à cette situation, dont j'ajouterais juste, pour rendre les choses compliquées, encore plus compliquées, deux notions en plus, c'est la question de l'hypocrisie, quand même, sociétale, qui est un vrai entrave dans ce débat-là, parce que après tout, on ne touche pas seulement à l'égalité homme-femme ou autre égalité, on touche à une question directement liée à la sexualité, qui est un sujet tabou, quoi qu'il soit le teneur de débat qu'on aborde dans beaucoup de sociétés, où beaucoup de sociétés ont du mal à aborder cette question de façon ouverte, ou pensent que c'est une agression presque de leur imposer une autre vision qui le leur sur la question de sexualité, parce que c'est quelque chose qui doit rester, je cite quelque chose que j'aurais su récemment justement sur les réseaux sociaux, ça doit rester dans sa chambre. Donc toute la question de que l'égalité, c'est pas la question de chambre, l'égalité elle est la question de toute la société. Deuxième couche, c'est effectivement la question qui vient d'être mentionnée, c'est les religions, parce que quand même, contrairement aux femmes ou d'autres groupes, certaines religions disent textuellement que c'est complètement interdit, il promet l'enfer éternel à des homosexuels. Donc effectivement, les personnes qui viennent de ces sociétés, ils vivent avec la double stigmatisation, y compris auto-stigmatisation, parce que certains d'entre eux considèrent qu'eux-mêmes ne sont pas des êtres qu'ils doivent être. Ils vivent ça extrêmement mal. Donc il y a toute cette complexité des choses, et je veux rappeler qu'en Tchétchénie, comme à l'est de l'Ukraine, on sait que donc les personnes homosexuelles persécutées sont persécutées, y compris par leur famille. Et en Tchétchénie notamment, on a plusieurs cas de meurtres, les crimes d'honneur commis par les familles. Mais là aussi, on rencontre une certaine hypocrisie, parce que l'État encourage ces crimes d'honneur. Kadyrov le dit explicitement, c'est aux familles de régler les problèmes s'ils ont des homosexuels. Et on sait qu'est-ce qu'en Tchétchénie veut dire régler les problèmes. On a documenté plusieurs cas où les personnes ont été tout simplement amenées dans la forêt par leur famille et tuées après être relâchées des prisons illégales et arbitraires de Kadyrov, avec l'ordre explicite aux familles de régler ce problème eux-mêmes.
Donc ça a vraiment des effets dévastateurs sur la société elle-même, en fait. Hein.
Complètement. Donc c'est pour ça que j'ai mentionné que pour nous, alerte et dénonciation auprès des organisations internationales va de pair avec la protection des populations sur place, parce que tout en faisant ces grandes déclarations à l'international, on est obligé de penser aux gens qui partent ou qui restent et qui sont là dans l'extrême souffrance maintenant, alors qu'on parle avec vous, à l'est de l'Ukraine, en Tchétchénie, mais je suis sûre aussi dans plein de pays d'Afrique, de Maghreb, dans plein d'autres.
On entendait au début de l'émission, et vous souhaitiez y revenir, Sacha Koulaeva, parce que le témoignage au tout début de l'émission de ce militant ougandais LGBT qui disait qu'il est également travailleur social et qu'il est extrêmement militant pour d'autres causes sociales que ses propres droits, notamment les droits des femmes, les droits des plus pauvres, les droits des exclus en général.
Oui, c'est extrêmement intéressant, et en même temps c'est très clair, et phénomène qu'on a mentionné tout à l'heure, effectivement il y a des groupes qui s'organisent à travers le monde contre donc cette libération, cette défense des droits, parce qu'il n'y aura pas de mouvement anti-mariage gay s'il n'y avait pas de mariage gay, ça va de pair, mais c'est pareil dans l'autre sens, et ça c'est plus positif à mes yeux, c'est-à-dire que les victimes de discrimination et de violation de leurs droits sont plus sensibles, et c'est tout à fait logique, aux violations des droits des autres, et c'est à ça que j'ai envie presque d'appeler toutes les personnes, par exemple le mouvement antiraciste qui lutte contre le racisme en Afrique ou ailleurs, que la lutte contre l'homophobie, c'est le même combat, c'est exactement le même combat, c'est l'universalité des droits.
Vous citiez d'ailleurs, il y a quelques minutes, Sacha, le fait que les personnes qui sont persécutées pour leur orientation sexuelle en arrivent à se dire « mais pourquoi je suis née de cette façon-là » On avait exactement un témoignage tout à fait similaire d'une personne en Afrique de couleur noire qui disait être victime d'un racisme très violent de la part de travailleurs chinois dans son pays, en République démocratique du Congo, ils disent, on en arrive tous à se demander pourquoi nous sommes nés noirs, ce qui est quand même incroyable. Il y a quand même une symétrie hallucinante.
Mais je crois que ça, c'est très intéressant pour revenir au témoignage que nous avons entendu en début d'émission. C'est que quand on travaille sur les droits d'une minorité, on fait avancer les droits de tous. Et ça, je crois que de se dire qu'on peut, en défendant les droits d'une minorité spécifique, faire avancer la cause au niveau de son universalité, je trouve ça extrêmement intéressant et stimulant. Et ça a bien à voir avec cette question d'universalité des droits humains, favoriser la protection de tous, quelle que soit l'appartenance ethnique, raciale, religieuse, etc.
David Paternotte, est-ce que les organisations militantes LGBT doivent déléguer davantage ce combat-là, même si elles ont énormément apporté historiquement, ne serait-ce que pour documenter aussi les violences dont ces personnes sont victimes? Est-ce qu'elles doivent passer la main de plus en plus maintenant à des organisations beaucoup plus généralistes?
Je pense que en général, ils travaillent de concert, donc on travaille ensemble. Ce qu'on voit aussi en réaction à l'augmentation de toutes les violences et des attaques, c'est la création de coalitions, une coalition très large qui regroupe les associations de défense des droits LGBT, qui regroupe des associations de défense des droits des femmes, des associations généralistes comme Amnesty, comme Human Rights Watch, comme les fédérations des droits des humains, et par ailleurs aussi des organisations religieuses. Et ça, c'était important sur la question de la religion. C'est aussi de ne pas rentrer dans une opposition qui est parfois simpliste en disant que la religion sera nécessairement mauvaise, parce qu'il y a une critique, avant tout dans les communautés religieuses, une critique de ce discours sexiste, de ce discours homophobe, pour faire avancer les différentes religions. Et donc, il y a des vrais espaces de débat, notamment en théologie, avec des gens qui essayent de changer les lignes de force.
Déjà, parce que, premier argument, parce qu'il y a des personnes homosexuelles qui se revendiquent d'une foi, appartenir à une religion, et qui veulent continuer à pratiquer leur religion, et qui ont ce droit-là, bien évidemment.
Absolument. Ça, et aussi, tout le travail sur les textes, d'interprétation des textes, et de montrer que aussi certaines interprétations dominantes dans un certain nombre de religions sont en fait seulement que des interprétations d'un texte qui auraient pu être compris autrement. Surtout quand il y a des opérations de traduction, qui sont des extraits anciens, etc.
Alors, on a beaucoup parlé de l'Europe centrale, de la Tchétchénie, de la Russie. Est-ce qu'il y a des pays qui aujourd'hui donnent de l'espoir, où les lignes ont bougé? Pour vous, David Paternotte.
Je dirais l'Amérique latine avant tout. C'est un continent, enfin un sous-continent où les choses en 10 ans ont évolué de manière extrêmement rapide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance, mais la situation comparée à celle d'il y a 10 ou 15 ans était totalement différente.
Vous pensez à quel pays? Le Brésil, l'Argentine?
Le Brésil, l'Argentine, la Colombie.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée récemment?
Ben, notamment, la plupart de ces pays ont ouvert la loi sur le mariage. Donc on voit vraiment qu'il y a deux grandes parties du monde où le mariage est ouvert aux personnes de même sexe. C'est l'Europe premièrement, et puis l'Amérique latine, qui sont vraiment deux grands foyers. De la même manière aussi, les États-Unis, alors on verra ce qui se passe avec le président actuel, mais sous les deux présidences de Barack Obama, il y a eu des avancées spectaculaires qui ont été faites au niveau international, mais surtout au niveau interne aux États-Unis pour les droits des personnes LGBT.
Comment on peut expliquer que ces pays-là sont parvenus à bouger alors que ce sont des pays où la religion catholique est importante ?
Il y a d'une part un mouvement de sécularisation, donc il y a d'une part aussi l'idée de dire que la religion c'est un phénomène privé, ça ne devrait pas intervenir dans les lois d'un certain de ces pays-là. Ce qui a joué aussi par exemple en Amérique latine, c'est le rôle parfois qu'a pu jouer la religion et dans ce cas-là l'Église catholique dans des régimes dictatoriaux, l'idée que la religion, ou l'Église en tout cas, l'Église catholique était associée au passé, et l'idée également que la modernité, on voit la même chose en Irlande par exemple, la modernité c'est aussi défendre les droits de tout le monde, et que la modernité ce n'est pas s'opposer aux droits de certaines personnes.
Pour votre organisation, Bénédicte Jeannerot, pour directrice France de Human Rights Watch, comment votre organisation fait avancer les choses sur des continents comme celui-ci dont on parlait?
On utilise en fait la même méthodologie pour les droits LGBT que pour tous les droits. En fait, on a un premier travail d'enquête, en grande partie sur les enquêtes sur des violences ou des discriminations qui sont commises à l'encontre des personnes LGBT. Et ensuite, on s'appuie sur ces enquêtes-là pour mener un plaidoyer au niveau local et ensuite arriver à faire peser ce plaidoyer au niveau international.
Et qu'est-ce qu'on appelle un plaidoyer concrètement ?
C'est faire pression en fait sur les décideurs politiques. Donc on peut par exemple engager une action avec des réseaux locaux comme ça se fait toujours pour protester contre une nouvelle législation par exemple. Ou alors on va lancer une action au niveau d'une coalition internationale pour pousser les Nations Unies à voter une résolution ou à nommer un expert indépendant comme ça a été le cas en 2016. Donc voilà, toujours le même travail, on enquête au niveau local et à partir de ça...
Il y a eu du débat à l'ONU en novembre dernier d'ailleurs, hein,
oui, mais
pour savoir si l'orientation sexuelle relevait des droits de l'homme ou pas quand même.
Oui. Petit à petit, on fait avancer les choses. Je souligne aussi que tout ça est récent, hein, quand on sait que l'OMS a retiré qu'en 1990 l'homosexualité de la liste des maladies, de son listing officiel, on est sur des progrès très, très récents. Finalement, en France, la dépénalisation de l'homosexualité date de 1982. Donc, on peut effectivement appeler à des changements dans différents pays, notamment sur le continent africain. Mais nous-mêmes, en Europe, ces changements-là sont intervenus très, très récemment, grâce très souvent à l'organisation des réseaux d'activistes. Et c'est ça la note d'optimisme que j'aimerais apporter dans l'émission, au-delà de ce que nous avons déjà dit. C'est vraiment la mobilisation parfois héroïque de certains réseaux sur le continent africain ou dans des pays où les homosexuels s'exposent à des tribunaux, à de la prison ou même à de la peine de mort dans encore 8 pays sur la planète.
Sacha Koulaeva,
votre aussi pour aller dans exactement dans le même sens, que c'est pour ça que pour nous aussi la notion quand même de solidarité et de lutte universelle est extrêmement importante. C'est pour ça que parmi toutes les autres actions dont on a pu parler aujourd'hui, on a lancé cette campagne. Je vais permettre de faire une petite pub donc pour le hashtag Stop LGBT Persecution. LGBT persécution. Effectivement, c'est une campagne qui a été déjà reliée dans les premières heures de son existence, puisqu'elle a été lancée ce matin et très facilement accessible par le site de la FIDH, par Jonathan Little, l'écrivain, Jane Birkin, chanteuse que je n'ai pas besoin de présenter, Blanca Lee, danseuse et chorégraphe, autres acteurs, chanteurs, mannequins comme Estelle Hallyday et d'autres, qui ont voulu apporter quelques mots de soutien très humains, très courts, sans déclaration onusienne, à ces populations persécutées et humiliées, y compris dans leur propre tête, pour dire qu'ils ne les considèrent pas comme des êtres différents des autres et qu'ils ont besoin de toute leur amitié et notre amitié, notre solidarité, comme toutes les autres personnes, ni plus ni moins. Et je pense que c'est ce message aussi qui est très important pour ceux qui luttent pour les droits LGBT, pour tous ceux qui luttent pour les droits universels et pour les personnes concernées qui restent quand même les premières victimes de ces atrocités.
David Paternotte, pour nos auditeurs qui pensent que nos sociétés sont en danger si on accorde plus de droits et de respect à ces personnes-là, vous avez le mot de la fin.
Je voulais simplement dire qu'il faut faire attention de ne pas mener d'autres batailles en combattant les droits LGBT, que, ça on le voit à l'ONU, des tas d'États sont en fait en train de faire d'autres choses sur la souveraineté nationale, sur leur pouvoir, et pas sur les droits des personnes sur le terrain. Et donc, les gens doivent penser avant tout, ici, ce qui est en jeu, c'est ce que les gens vivent sur le terrain, et pas d'autres combats.
Merci à vous tous, Bénédicte Jeannereau, directrice France de Human Rights Watch, Sacha Koulaeva, responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale à la FIDH, c'est-à-dire la Fédération internationale des droits de l'homme, a retrouvé donc le hashtag Stop LGBT Persécution. Et merci à vous, David Paternotte, maître de conférence en sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez aussi publié en 2012 Revendiquer le mariage gay aux éditions de l'Université de Bruxelles. À demain, les 7 milliards de voisins, bien sûr, sur RFI.